dia ciel, la pluie adoucit. Soleil dia ciel, la pluie adoucit. Mais non, il veut pas. Si un jour il faut arrêter ça.
Sur 88.4, bienvenue sur 88.4, je suis avec ma collègue Sandra.
Bonjour, bonjour à tous.
Et du coup aujourd'hui on est là pour l'épisode numéro 18, des nouvelles de Mars. Du coup moi c'est Waka et Sandra.
Au mic, on est là pour vous parler du festival Afropunk.
Ouais, du festival Afropunk mais aussi un peu de l'actualité et de la négrophobie qui est un peu... ambiante et un peu partout dans le monde en ce moment. Et on va parler du sujet joyeux comme Afropunk. C'est un festival dans lequel on a été.
Tout à fait, super expérience. Afropunk qui a plusieurs éditions dans beaucoup de pays. Donc nous, on a été à l'édition à Paris. Et on va commencer par écouter un titre en rapport avec le festival. C'est parti.
Her hair is short. Her legs are brown, her lips are full, her head hangs down, her eyes are blue, her ass is round, her breath is sweet, and she wears
retour sur 88.4 sur Radio Galère et avec ma très chère collègue Sandra.
Yes, alors on vient d'écouter la chanson qui s'appelle Boot et c'est de Tamar Kali. Tamar Kali est une chanteuse et guitariste, chanteuse de punk qui vient de la scène de punk de New Yorkaise, de Brooklyn précisément. Et nous avons passé ce titre car c'est le titre qui ouvre le documentaire Afropunk qui a été produit en 2003 par James Spooner, réalisé par James Spooner. Là, cette chanson ouvre le documentaire et ce documentaire parle de l'expérience d'être une personne noire américaine dans la scène punk hardcore à New York. Voilà. Et du coup, le fait de plusieurs témoignages sont dans ce film, des artistes ou des personnes qui sont juste fans de cette musique-là. Voilà, je vais arriver à cette vidéo.
Oui, et d'ailleurs, on a vu le documentaire justement hier soir qui parlait de Afropunk. Mmh. Moi, on se posait la question comment est né ce festival. Mmh. Et je crois qu'il a été. Il a commencé en 2005.
C'est ça, à partir de ce documentaire, donc après la réalisation de ce documentaire, le réalisateur a pu le montrer, tourner dans tous les États-Unis et aussi un peu à l'international, le montrer aux gens pour trouver aussi des personnes noires faisant partie de la scène punk. Et à partir de ce film-là, il a créé un site web. Sur ce site web, il y avait un forum où les gens, après avoir vu ce film, pouvaient rentrer en contact. Car la conclusion générale de ce film, c'était de dire que les personnes racisées au sein de la communauté de punk, il n'y avait pas de communauté. Elles ne communiquaient pas entre elles et du coup, elles se sentaient chacune très isolées. Et ce que ce film a permis, c'était de rassembler ces personnes-là. Et notamment, après donc, la projection en 2005, il a pu créer... ce qu'il appelait des sessions de libération, Liberation Session, où il faisait des concerts avec des artistes, des groupes de punk incluant des personnes racisées, qui étaient, où les personnes racisées aussi aimant cette musique pouvaient assister et voilà, écouter cette musique-là. Et à partir de ces Liberation Sessions, il a créé les premières éditions d'Afropunk, donc, qui était au début donc, un festival gratuit orienté vers les musiques punk. Voilà.
Punk et alternative. C'était aussi une façon de d'être fier de notre culture afrodescendante. Et ce qui était très frappant dans ce documentaire, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que toutes les personnes qui sont intervenues, qui étaient dans la scène punk ou rock alternatif, toutes leurs expériences étaient similaires, en tout cas aux expériences que j'ai déjà vécues. Et ce documentaire, il date de 97, je
crois. Non, 2003.
2003, ouais. Ah, ok. Parce que je crois qu'il y avait des scènes où on parlait de 97. Du coup, c'était juste des scènes de genre...
Une des personnes, justement, qui, elle, est... une opinion assez intéressante. C'était une jeune étudiante à l'époque qui, elle, était au lycée et a créé un magazine qui répertoriait tous les concerts punk dans les environs de là où elle habitait. Et c'était un magazine qui a grossi, et du coup, c'est devenu un peu la référence pour les sorties punk, pour les événements musicaux, les choses à écouter. Elle faisait des reviews de ça. Et elle avait peut-être moins de la vingtaine, et elle était dans ce milieu depuis les années 90, en fait. Voilà. Oui. Elle avait passé beaucoup d'années dedans. Et cette personne-là, justement, avait une opinion assez particulière, car elle faisait partie de la scène punk, et pour elle n'avait jamais vécu vraiment de racisme au sein de cette scène. Mais elle-même aussi ne se j'ai pas vraiment l'impression qu'elle se considérait comme une personne de couleur, ou c'était pas vraiment ça la chose qu'elle revendiquait le plus possible.
En fait, ils revendiquaient pas le fait d'être du moins pour eux. En fait, ils étaient des êtres humains comme tout le monde, mais le fait est que, par exemple, ils étaient considérés pas exactement comme des punks parce qu'ils avaient pas les cheveux lisses. Ce genre d'attributs, et même dans leur propre communauté, on les renvoyait au fait qu'ils faisaient des choses de blanc. Et il y avait un truc qui était très très drôle,
c'est ça, ils étaient vraiment entre deux eaux, quoi. Ils étaient trop blancs ou trop bizarres pour être noirs américains, et pas assez blancs pour être punk, enfin acceptés aussi facilement dans la communauté punk que,
voilà. Et ce qui est d'ailleurs très drôle, parce que le rock, c'est une musique noire. Imaginons, c'est comme si, peut-être ça sera possible, hein, j'espère pas, mais comme si dans 20 ans, tu fais du rap, tu fais du hip-hop, et une personne te dit, écoute Coco, pourquoi tu fais de la musique de blanc? Donc voilà, quoi. C'est un peu particulier. Bon, le jazz, maintenant, dans pas très longtemps, ça sera comme ça, hein, je pense. Mais du coup, c'est ça qui était super décalé dans ce documentaire aussi.
C'est ça, c'est que ces personnes-là avaient conscience, justement, que de l'histoire de leur musique et d'où elles venaient. Et il y avait pas mal de témoignages de groupes, dont notamment un où le chanteur était une personne racisée, donc noire américaine. Et pour lui, il se sentait un peu en décalage au fait que lui, les paroles qu'il écrivait concernaient son expérience d'homme noir ou les personnes ou les expériences de personnes opprimées en général. Et que, pour la plupart des concerts qu'il faisait, il jouait pour une audience blanche, et il se rendait compte du décalage le fait que les personnes qui écoutaient sa musique, en fait, peut-être ne captaient pas, en fait, le message qu'il portait, ou ne se sentaient pas concernées par ça. Et ça le frustrait beaucoup. Mais d'où aussi l'intérêt de ce documentaire qui a pu mettre en avant toutes ces personnes-là actives dans la scène punk et qui a permis par la suite de réunir ces gens-là en une communauté et créer des événements pour eux, quoi. L'esprit d'Afropunk.
Et c'est justement encore ce qu'on a retrouvé cette année.
Mmh.
Même si, comme on a dit, ça a beaucoup évolué entre ce que c'était au début.
Ouais, c'est ça. Ça a beaucoup changé. Après 2005, le réalisateur, donc James Spooner, est parti de l'organisation du festival car il y avait plutôt une autre direction qui partait vers ouvrir à d'autres genres musicaux, inclure des artistes qui n'étaient pas forcément considérés comme tolérants, qui ne correspondaient pas vraiment aux valeurs du festival. Mais c'est ce qui a permis aussi au festival de grandir. Au début, le festival était gratuit. Maintenant, le pass du week-end est quand même assez onéreux, il ne faut pas le mentir. Et puis, donc on a été à l'édition de Paris, mais on n'a pas vu de groupe de rock. Il n'y avait pas de...
Il n'y avait pas de punk.
Il n'y avait pas de punk. Mais... Il y avait des afros, mais il n'y avait pas de punk.
Ouais, mais il y avait des groupes qu'on a adorés. Moi, c'est la première fois que j'allais au concert de Janelle Monae, et c'est un groupe que je kiffe depuis justement que je suis... Je suis au lycée.
Oui, on a vu des artistes de fou. L'esprit qu'on a retrouvé, c'était un festival avec des artistes afrodescendants qui étaient soutenus et pour un public de personnes afrodescendantes. Ça, on l'a vu. Et ça, c'était super comme expérience. Même si c'est pas vraiment, on n'est plus dans la scène punk, on est quand même dans l'idée de créer quelque chose pour nous et par nous et pour nous.
Oui, et justement, en parlant de par nous et pour nous, est-ce qu'on ne va pas écouter FUBU ? Et peut-être aussi expliquer c'est quoi FUBU ? Parce que tu m'as pris quelque chose tout à l'heure. Et
ah oui, bah alors, par nous, pour nous, aussi. C'est une tradition littérale de FUBU, donc For Us, By Us, qui était au début donc, une marque, je crois que c'était dans les années 80 ou 90, une marque de vêtements pour destinée à la communauté afro-américaine. Et beaucoup de rappeurs, beaucoup de personnes influentes ont investi dans cette image-là. Et Solange donc, a repris ce sigle pour en faire une chanson, For Us By Us, qu'on va écouter tout de suite, Solange.
Yes, et elle est très belle cette chanson.
All my niggas in the whole wide world. All my niggas in the whole wide world. Made the sun and make it all yours. Time for us. This shit is for us. All my niggas let the whole world know. Play the song and sing it on your terms for us. This shit is for us. Don't try to come for us. All my niggas got the whole wide world. Tell them niggas that it's all our turn. This us. Some shit is a must. Some shit is for us. When you know you gotta pay the cost, play the game just to play the boss. So you're thinking what you gain, you lost. But you know your shit is taken up. Oh, when you're driving in your tinted car and you're criminal. Just who you are, but you know you're gonna make it far. Oh, when you're feeling all alone, and you can't even be you up in your home. When you even feeling it from you, when you gotta figure it out. When a nigga trying to board the plane, and they ask you what's your name again. Was for them, 'cause it's
on site, we must jar. Host of my emotion is your call. Liquor in my system, we must brawl. Addiction, disobey the law. Don't clip my wings before I learn to fly. I didn't come back down to earth to die.
All my niggas in the whole wide world, oh, made this song to make it all yours. Turn for us, this shit is from us. Get so much from us, then forget us. If you can sing along, just be glad you got the whole wide world. It's us, this shit is from us. Some shit you can't touch.
Fubu. Mm-hmm. Fubu. Waouh. Cette chanson me donne des frissons, vraiment, tellement c'est magnifique.
Ouais, quand je l'écoute aussi, il y a ces moments de communion où on se sent, en fait, on se sent juste validé, quoi. On se dit, oui, c'est pour nous, c'est par nous, c'est pour nous, et on sait d'où ça vient et on sait pourquoi c'est là, quoi.
Ouais. Et justement, pour revenir au festival Afropunk, ce que j'ai adoré dans ce festival, c'était que pour une fois, j'étais juste moi. J'étais pas la noire. J'étais pas le quota. J'étais pas la caution. Et, et c'est très rare de le ressentir.
Oui.
T'es juste une noire parmi tant d'autres.
Ouais, c'était vraiment. Bah, c'était un très très gros festival et la plupart du public était. Enfin, la grosse majorité était afrodescendante en fait. Et c'est vrai que ce genre d'occasion. Enfin, moi de mon vécu, moi je viens de province, du nord de la France, et j'ai jamais eu ce genre d'occasion de me retrouver avec des milliers de personnes racisées, être en communion, de partager sur la même musique, de chanter tous ensemble, de chanter tous en chœur, de danser à l'improviste, de se faire des jam sessions comme ça. Il y a une joie, juste une joie d'être ensemble, quoi, et de partager des choses.
Et de partager des choses dans un grand respect, j'ai trouvé aussi, parce que les gens étaient super respectueux. Moi, je me souviens, à un moment donné, je suis allée aux toilettes. et une meuf et tout qui m'a dit « Ah, j'aime trop la couleur de tes locks et tout. T'as fait quoi comme couleur ?» Et c'était juste en mode trop choquée. Genre, la meuf me faisait des compliments, on se connaissait pas et tout. Et il y avait aussi une forme de bienveillance, tu
oui.
vois.
Ouais, totalement, ouais.
Ouais. Et où les gens, quand tu les regardais, ils te souriaient. Il n'y avait pas un truc de...
Il y avait ce côté aussi de ce que j'adore, c'est vrai, quand on dansait, genre, tout le monde aime s'enjailler, et ce que j'adore, c'est quand t'as quelqu'un qui s'enjaille vraiment, et là, t'as un cercle qui se forme autour, et tout le monde l'encourage, et ça arrive tellement, c'est arrivé tellement de fois, ce genre de moment.
Ouais, où tout le monde danse, et tout, en cercle, et c'est en mode, genre, vas-y, viens danser,
ouais.
Tu vois, viens sauter, viens bouger, on n'a qu'une vie, et, c'était vraiment trop, trop bien. Et pour revenir au truc critique de... Oui, effectivement, au début, Afropunk, c'était gratuit.
Ouais.
Et du coup, maintenant, c'est quand même assez cher. Donc, il faut pouvoir se le payer. Et du coup, quelque part, c'est aussi un investissement. Et c'est aussi une catégorie de personnes qui peuvent se le payer, cette place.
Ouais.
Du coup, nous, on a pu le faire. Mais c'est pas accessible à tout le monde, en tout cas. Et j'espère que dans le futur, ça sera le cas.
Oui, qu'en effet, peut-être qu'ils fassent des concours, donner des places gratuites. Parce que For Us By Us, c'est pour nous, par nous, mais pour qui, en fait, au final, pour nous qui enfin, c'est,
ouais.
Voilà, il faut inclure tout le monde et même faire venir des personnes isolées, comme le montre le documentaire Afropunk, des personnes isolées dans des états ou même dans des régions à prédominance blanche, on va dire. Mm-hmm. On est les seules personnes racisées. Bah, avoir l'occasion de pouvoir se... participer à ce genre d'événement, ça rassure et ça permet de se sentir vraiment pas seul et de solidifier dans son identité, dans sa construction de son identité et justement éviter d'être dans des travers d'assimilation, de vouloir à tout prix paraître blanche ou adopter les codes des cultures.
Et surtout se désintégrer, quoi. Ouais. Et bon, comme tu disais tout à l'heure, toi, tu es originaire de la province
de Normandie.
Et du coup, moi, j'ai grandi une petite partie de ma vie au Cameroun. Du coup, le noir était, c'était la norme.
Ouais.
Entre parenthèses. Et du coup, ce que j'ai retrouvé à Afropunk, et c'est là où aussi c'est la magie, je trouve, de ce festival, malgré tout, c'est que tu ne te sens plus... C'est comme si ce que j'avais vécu au Cameroun, en fait, en un instant, un espace très court, parce que ça a duré que 2 jours,
ouais.
Je me suis remis là. Et en plus, c'était tellement beau.
Ok, faut le dire. Alors, si vous avez l'occasion, allez sur Instagram ou sur le site d'Afropunk ou sur Internet et regardez les photos des gens qui sont venus à Afropunk. Parce que c'était magnifique. C'était la Fashion Week, mais afro-futuriste. C'était super. Et d'ailleurs, ce qui était génial, c'était la plupart des personnes qui sont venues porter des pagnes, des tissus traditionnels.
Ouais, d'Afrique subsaharienne.
Et c'est vrai que je voyais ma mère qui portait des pannes, des tenues comme ça quand j'étais plus jeune, mais j'ai jamais osé vraiment en public, surtout en Normandie, porter ce genre de vêtements. Et du coup, le premier jour, je me rappelle, je suis revenue avec des fringues normales et je me sentais en décalage. Je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas l'esprit du truc. Et du coup, le lendemain, j'ai réussi à trouver des trucs. Et c'était génial parce que je me sentais, tout le monde portait ça. Du coup, je me sentais validée. Je me disais, mais ouais, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait depuis plus longtemps que ça?
Ouais.
C'est super beau et on peut faire des super tenues avec. Et ouais, quoi.
Ouais, et c'est drôle parce que ce dont tu parles là, j'ai ressenti exactement la même chose. Moi, je vivais au bled avant que, entre parenthèses, les tissus d'Afrique subsaharienne ou le wax, pour ceux qui ne connaissent pas les autres types de tissus, avant que ça soit populaire maintenant, parce que c'est très populaire, et c'est aussi des artistes américains afro-descendants qui l'ont valorisé et qui ont fait en fait que ça aussi c'est cet essor-là, un peu comme les joggings en ce moment, les survêtes. Du coup, le truc c'est quoi? C'est que moi j'ai toujours vu ça et j'ai toujours été, j'ai tout trouvé ça beau, mais en même temps il y avait ce truc où c'était trop, trop africain.
Ouais, tu portais des couleurs, oh mon dieu, dans la rue. Oh là là.
Et des motifs, non mais c'est pas possible. Et du coup, moi j'ai aussi cette révélation en me disant, mais pourquoi je fais pas ça souvent? Et je savais qu'en allant là-bas, j'aurais pu me permettre, m'autoriser de faire ça. Et maintenant je me dis, en fait, dès que je peux et tout, je m'habille et tout avec nos tissus traditionnels, avec tout ce que ça comporte de notre histoire, parce que même les motifs, ils ont un sens. Ils ont un sens dans notre culture et ils veulent dire des choses. Par exemple, moi, j'essaie de reconnaître le tissu de mon ethnie, par exemple, des Bamileke, tu vois. Et j'essaie de reconnaître un tissu angolais, par exemple. Après, il y a d'autres tissus que je ne sais pas, tu vois, genre des tissus
okinabés. Non, je vois, mais c'est, c'est la continuité des choses. C'est pas parce que tu es dans un autre pays que celui de tes origines qu'il faut que tu oublies justement tes origines. Et c'est porter son héritage, quoi. C'est se sentir complet, quoi. C'est pas en décalage, du coup. Ouais. Être fier de ça, de son héritage.
Ouais.
Et tout le monde était beau, quoi.
Et
ça se voyait. Et c'est ça qui valide, en fait. C'est ça. C'est génial dans ce genre d'occasion. Tu vois des gens qui te ressemblent, qui osent, qui sont beaux et qui te disent, moi, je suis beau et je m'assume. Et du coup, tu te dis, oui, pourquoi je le fais pas?
Et vraiment, c'était vraiment une ode à notre africanité et surtout à notre richesse, à notre héritage, qui est tellement multiple, qui est tellement énorme. Par exemple, je me souviens dans ce documentaire sur Afropunk, il y a un moment donné, il y a un intervenant qui dit la culture américaine, c'est un cadeau des Noirs.
Elle serait rien sans l'apport des Noirs américains.
Ouais, et beaucoup de choses dans ce monde ne seraient rien sans notre apport, en fait. Et rappelons-nous, et n'oublions pas que, même si on le dit souvent, que le berceau de la vie se trouve en Afrique, et du moins de l'humanité. Et du coup, on a quand même beaucoup d'apport. Et n'oublions pas que les pyramides se trouvent en Afrique, pyramides d'Égypte. Et qu'aujourd'hui encore, on n'arrive pas à savoir comment on peut faire des pyramides telles que les pyramides d'Égypte. Et n'oublions pas que les pharaons étaient noirs. Voilà. Et que on est tellement
et que Jésus
bon.
N'était pas clair de peau, blond aux yeux bleus aussi.
Oui, n'oublions pas ça. Et ça fait du bien de se rappeler de toute cette chose. Et du coup, peut-être pour conclure, on va mettre une interview d'un artiste qu'on a rencontré à la fin d'une soirée du
à
dimanche.
À la fin de l'after du dimanche.
Ouais, à 4h du matin, je crois. Mm-hmm. Et à la base, c'était pas prévu de faire cet enregistrement, mais on a eu une belle discussion. Et je voulais la mettre en fait aujourd'hui parce que justement, c'était très très beau ce qu'il faisait comme art et la discussion en fait, bah pareil, c'est comme la discussion que j'ai en ce moment avec Sandra, on s'est rendu compte de plein de choses et il explique un peu ce que c'est que Afropunk, du coup on a un commentaire un peu différent de nous qui sommes présents ici en direct sur Radio Galère, donc voilà l'interview. Et du coup
alors ce dont je me rappelle quand même, c'est que son frère, du coup, cet artiste, a gagné la Battle of the Bands, parce que Afropunk permet chaque année, dans chaque ville où il y a des éditions, de faire un tremplin musical. Et donc le groupe qui a gagné, il y a deux groupes parisiens qui ont gagné ex aequo cette année, et donc un des groupes s'appelle Gister, et c'est un groupe de rock psyché. Influencé par beaucoup de types de musique afrodescendante aussi, c'était assez génial. Donc une famille d'artistes, de très bons artistes.
D'accord, on va écouter ça.
On est dans la communauté, dans les communautés noires. Chaque endroit, c'est un festival, c'est un mouvement et qui est panafricain. Parce que vraiment, il y a Johannesburg, et maintenant ils vont le faire à São Paulo, à Bahia, au Brésil. Il y a aux États-Unis, en France, en Angleterre. En fait, quel festival ou mouvement tu connais à un niveau international chez les Noirs qui a ce. En fait, qui inclut ou qui est un endroit qui est un espèce de safe space, un endroit. Safe space, je ne sais pas comment on dit safe space. Mais un safe space pour les gens, pour le féminisme, pour les gens LGBT, tu vois. Dans la communauté, non, c'est très rare.
Non, il n'y en a pas. En vrai, il n'y en a pas.
Voilà.
Et du coup, ça change beaucoup de choses.
Et c'est pour ça que je dis que c'est très positif, en fait, ça. Et même, pas que ça, c'est que ça, en fait, ça aussi, ça met en avant plein d'artistes aussi qui n'ont pas forcément une plateforme, mais ça leur donne un niveau international.
Un tremplin.
Un tremplin, ouais. Là, yeah.
Moi, ce qui m'a surpris, c'est que Lizzo dit « Ouais, si vous ne me connaissez pas, je suis Lizzo. » Alors que moi, je la connaissais. Et du coup, je me dis, en fait, quand même, elle n'a pas ce tremplin comme sans doute d'autres artistes qui sont passés.
Mais là, c'était énorme. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que Lizzo, quelqu'un qui, il y a deux ans, était inconnu, mais moi, je ne la connaissais pas aujourd'hui. Ça, c'est la première fois que je vois.
Moi, je la connaissais avant.
Moi, je la connaissais pas, c'est parce que je connais j'ai une amie qui est amie, qui m'a présenté au chorégraphe de Lizzo et de Janelle Monáe. Et donc il m'a dit, ah oui, il y a Lizzo aussi. Donc j'ai regardé, je suis allé voir. Mais comment dire mais il y avait plus de monde pour Lizzo que pour Raphaël Sadiq, par exemple. Qui a genre, je sais pas, il a quoi, il a 30 ans de carrière, 20 ans de carrière.
20 ans, je pense.
Ouais, 20 ans.
20 ans quand même.
90, on est quoi, en 2020? Il a commencé dans les. Non, il a.
Moi je me souviens.
Je suis étonné, c'est le début des années 90. Ah, là, ouais. On est en 90, 2010.
Ouais, c'est vrai que c'est début 90, c'est 30 ans.
Ouais, c'est 30 ans. Du coup, les gens arrivent il y a à peine, tu vois. Après, ça défend ce qu'elle fait, c'est génial et tout.
Mais surtout qu'elle était connue avant, mais dans une scène. Comment on peut dire, de niche.
Oui, mais je veux dire, qu'est-ce que. Après, c'est. Enfin, comment quelqu'un, justement, dans une scène de niche, arrive comme ça. C'est génial d'avoir cette plateforme qui fait que. Ben, les gens étaient. Il y avait plus de gens pour elle que pour Raphaël Sadiq. Et quasiment une personne. Tu vois. Et c'est vrai que c'est bien pour un super artiste. Mon frère aussi l'a performé. C'est super. Moi, j'ai explosé là-bas.
Et, ah ouais, t'as explosé ?
Ouais, j'ai fait les tableaux avec lui.
T'as fait quoi?
Les tableaux avec les clous, les œuvres.
Ah, mais c'est toi! Waouh! J'ai pris en photo et en vidéo d'ailleurs. Pour voir, tu vois, la 3D derrière. Waouh! Et vraiment, je suis enchantée de te connaître. Je je ne savais pas du tout que c'est toi. Et du coup, là, je découvre en même temps que l'interview est... Waouh, bah, j'espère qu'on pourra te voir à Marseille. C'est chaud.
À Marseille, tu es Marseille.
Ouais, la région pour laquelle je travaille est de Marseille.
Moi, j'ai des ennuis. Il y avait des trucs qu'on devait faire, mais ce n'est pas fait. Moi, j'aimerais bien faire une bonne exposition dans une bonne condition à Marseille, quoi, dans les bonnes conditions. Quoi.
Donc, on est de retour sur Radio Galère 88.
Qu'est-ce qu'on connaît hein?
Et voilà, c'était l'interview de cet artiste qu'on a rencontré. Mmh. Et malheureusement, on a perdu le flyer et on a perdu son nom aussi.
On le retrouvera et on le mettra ses références
sur
Facebook.
Oui, c'est sûr, sur Facebook ou bien sur SoundCloud. En tout cas, c'est vraiment cool de discuter avec lui parce que c'était une rencontre qui s'est faite totalement par hasard on était d'accord sur l'essentiel de ce qui est possible avec Afropunk et de pourquoi c'est nécessaire en fait que ce genre de festival existe. Par exemple, aujourd'hui, les gens ne se souviennent pas forcément que le festival de l'UMA, de l'humanité, du coup, c'était un festival à la base fait par les communistes par rapport au journal, au magazine et tout. Même s'il y a encore des militants communistes qui vont chaque année avec des stands, bah, c'est un peu perdu de son essence. Et du coup, il faut juste savoir et avoir une idée de pourquoi ces festivals doivent exister, pourquoi ils existent, et ne pas penser que c'est parce qu'ils existent qu'il n'y a pas de place pour d'autres types de festivals. Et il y a tellement de choses à faire, en tout cas concernant la communauté noire, la communauté afrodescendante, la diaspora, que je dirais même que c'est aussi illimité que les étoiles dont... Je pense que c'est aussi vaste que les étoiles dans le ciel.
Sous-entendu, donnez-nous des sous, s'il vous plaît. Subventionnez-nous.
On a tellement de choses à faire, donc il faut qu'on commence dès maintenant. Du coup, peut-être qu'on va écouter une chanson pour faire une courte pause.
Là, si tu veux présenter le titre.
Ouais, le titre, c'est Brown Skin Girl de Beyoncé, qui est sorti par rapport à la BO du film Roi Lion en ce moment. Oui. Okay. Et du coup, elle a fait la BO du film Roi Lion. Et avec cette chanson s'est faite en featuring avec Wizkid, qui est un artiste de la Naija Music, du coup un artiste nigérien, et Saint John's, et je crois aussi avec sa fille. Blue Ivy Carter. Elle est très belle, cette chanson. Elle parle de Brown Skin Girl. Bon, pour ceux qui ne savent pas, les Brown Skin Girls, c'est les filles à la peau marron. Parce que dans la communauté noire et dans la plupart des communautés qui sont non blanches, il y a ce qu'on appelle le colorisme. Plus tu vas être clair de peau, plus tu vas avoir une certaine forme de privilèges, et plus tu vas être foncé, et moins tu auras des privilèges. C'est aussi pour ça que les produits pour se blanchir la peau font des ravages. Vraiment. Et il faut arrêter avec ces produits-là. C'est aussi un héritage de la colonisation, de l'esclavage.
L'assimilation.
Et justement, Beyoncé a fait une chanson qui était très belle sur ça, et on va l'écouter. Merci à vous.
Skin just like pearl, the best thing in the world. I never trade you for anybody else singing.
She says she really grew up poor like me. Don't believe in nothing but the Almighty. Just a little jeans and a pure whitey. She never dreamed forever be nobody wifey. Yeah. She wall I mean a pretty but your heart is a mess. Play you like a villain cause she caught in a way. Tonight I am walking away. 9 to 5 mine and I grind. Yeah. Tonight I might fall in love. Depending on how you hold me. I'm glad that I'm calming down. Let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fights it by falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. Your back against the world. I never trade you for anybody else. A brown skin girl, skin just like pearls, the best thing in all the world. I never
trade you for anybody else.
Pose like a trophy when Naomi's walking. She need an Oscar for that pretty dark skin. Pretty like Lupita when the camera's closing. Drip broke the levy when my Kelly's rolling.
I think tonight she might break her brain. Melanin too dark to throw her shade.
She minds her business and winds her waist.
Go like 24K.
Okay.
Tonight I might fall in love. Depending on how you hold me. I'm glad that I'm calming down. Can't let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fighting but falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. You're back against the world. I never tried you for anybody else. Brown skin girl, your skin just like pearls. The best thing about the world. I never tried you for anybody else.
Oh, have you looked in the mirror lately? Wish you could trade eyes with me.
Because
there's complexities in complexion, but your skin is glow like diamonds.
Dig me like the earth, you be giving birth to everything alive, baby, know your worth.
I love everything about you, from your nappy curls to every single curve, your body natural.
Same skin that was broken, me the same skin taking over. Most things out of focus view, but when you're in the room, they know. You in all of your glory. Your skin is not only dark, it shines and it tells your story. Keep dancing, they can't control you. They watch and they all adore you. If ever you are in doubt, remember what mama told you.
Brown skin girl,
your skin just like pearls.
You're
back against the world. I never tried you for anybody else.
Just like pearls, best thing in the world. I never tried you for anybody else singing.
De retour en direct sur 88.4 pour les nouvelles de Mars avec ma chère collègue Sandra.
Yes.
Et moi-même, Waka. Du coup, on va passer à une forme de transition après avoir parlé de Afropunk et tous les sentiments qu'on a ressentis, toute cette beauté. On va parler un peu de choses un peu tristes qui concernent évidemment la diaspora, la communauté. Avant de parler de sujets plus douloureux, on va faire une petite transition avec justement le colorisme. Le colorisme, en fait, et ses ravages. Justement, dans beaucoup de pays où il y a des afros, des personnes se considèrent pas afro, du moins pas noires, parce que la colonisation, l'esclavage, ont fait qu'il y a eu pas mal de personnes avec des teintes différentes. Et ce qui fait que ça crée des situations où, par exemple, au Brésil, Ronaldo ne se sent pas du tout noir, alors que son père lui-même est noir. Et plus tu vas être clair, et plus tu voudras
faire partie de, enfin, ça crée des castes sociales, quoi. C'est
oui.
Les gens qui sont hauts sont les plus clairs, et c'est, oui.
Et vois. Du coup, c'est vraiment pour ça que c'est vraiment important, cette chanson de Beyoncé. Et c'est vraiment chouette que justement une light skin comme Beyoncé puisse le faire, parce que c'est un message très très fort qu'elle envoie à la communauté, et vraiment, bah, j'aimerais la saluer pour ça.
C'est avec toi, je crois qu'on en a parlé, c'était un article d'une interview du père de Beyoncé qui disait que Beyoncé a pu avoir la carrière qu'elle a eue en partie parce qu'elle était Latkin comparé à ses sœurs qui avaient aussi beaucoup de talent. Je pense à Kelly Rowland, qui a eu beaucoup de succès aussi dans sa carrière solo, mais beaucoup moins que Beyoncé. Et du coup, le père de Beyoncé pensait, enfin, ne nie pas que le fait qu'elle soit claire de peau et quand même et joue un rôle important, quoi.
Ouais. Donc, bah oui. Ce qui est souvent, les gens pensent que quand tu es une artiste pop, tu n'as rien dans la tête ou que tu ne réfléchis pas. Et Beyoncé récemment a fait un documentaire qui s'appelle Homecoming, littéralement retour aux sources, ou retour à la maison. Et dans ce documentaire, elle cite Audre Lorde, qui est une poétesse lesbienne américaine, black féminisme, du black féminisme. Du coup, en français, on pourrait traduire ça par afroféministe. Et du coup, dans ce film, elle dit « Sans communauté, il n'y a pas de libération. » Et ça veut tout dire. Ça veut dire qu'elle a conscience de la place qu'elle a, elle a conscience du rôle qu'elle a. Et surtout, aux États-Unis, il faut quand même toujours le rappeler, hein, même si les gens semblent oublier, mais des Noirs continuent à mourir sous le coup de la police. Et ceux qui occupent les prisons sont des hommes noirs. Hein. La majeure partie des hommes qui sont en prison sont des hommes noirs. Et du coup, ça ne fait que 60 ans que Rosa Parks s'est assise dans un bus. Donc toute cette histoire est toujours très, très, très présente. Mm-hmm. Et ce qui nous fait justement basculer vers ce qui se passe en ce moment. Par rapport à l'assassinat de Mamoudou Barry. Mamoudou Barry s'est fait tuer le soir de la finale... Algérie, ouais. Sénégal. Et il s'est fait tuer par un homme qui était qui supportait visiblement l'Algérie, qui était un supporteur. Évidemment, cet homme n'était pas algérien, apparemment. Selon les sources, c'était un Turc, franco-turc. Mm-hmm. Et très vite, on nous a dit que c'était un fou. Ok, d'accord. C'est un fou. Personne ne remet en doute que c'est un fou, mais tous les racistes ne sont pas...
Déséquilibré, comme le terme, enfin, un terme un peu plus neutre.
Ouais. Mais tous les racistes ne sont pas des fous, tous les fous ne sont pas racistes. Et ça, il faut bien le comprendre. Et aujourd'hui, on ne peut plus juste... Quand une personne va poser des bombes, on ne dit pas « c'est un fou ». Mis à part quand c'est un blanc. Je parle par exemple à la tuerie qui a eu lieu... c'était en Islande. Cet homme qui a tué beaucoup de personnes, 50 de personnes.
Ouais.
Oui. Ou c'était en Islande ou en Norvège, je ne sais plus, dans un pays du Nord.
Un énième loup solitaire.
Fou. La question qui nous ramène en fait à tout ça, c'est toute la négrophobie qu'il y a eu durant la CAN, du coup, la Coupe d'Afrique des Nations. Comme beaucoup d'entre nous, je pense, on a tous vu des vidéos passer sur Facebook. Où je me souviens d'une vidéo qui était très très marquante, qui était vraiment horrible. Hein. J'ai pas envie de répéter ça, mais pour que les gens comprennent quand même la violence, hein, vraiment la violence que ça a été. C'est un mec après la défaite de la Tunisie qui dit qu'il souhaiterait qu'il y ait un nouveau Hitler pour pouvoir exterminer les Noirs. Ouais. C'est que s'il y a un nouveau Hitler, il faut aussi vous exterminer, quoi, parce que on vient quand même du même continent. Même si...
Ils ont le privilège de la couleur de peau, quand même. Parce qu'il faut dire clairement que, oui, ils se considèrent comme pas africains. Enfin, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes du Maghreb qui n'aiment pas se dire africaines, parce que ça sous-entend qu'ils devraient être mélangés avec les personnes d'Afrique subsaharienne. Et c'est vrai que le privilège du fait qu'ils soient plus clairs de peau, clairement...
Du colorisme, comme on en parlait avec Beyoncé, même si, quand on parle de colorisme, ça touche surtout notre communauté, du coup, la communauté afro-descendant, mais vraiment... Disons que l'esclavage, ce que ça a créé, la colonisation, c'est ça a créé une hiérarchie. Et dans cette hiérarchie, plus tu es clair, et plus tu peux opprimer, tuer, violer, etc., etc. Et plus tu es foncé, plus tu dois être dominé, exterminé, massacré, violé, castré. Et c'est un pays du Maghreb, en parlant de la Libye par exemple, ou de la Mauritanie. Par exemple, en Mauritanie, il y a encore 20% des personnes qui sont en esclavage. Et la Mauritanie a par exemple... continue à castrer, à mettre en esclavage, à violer des femmes noires. En Libye, c'est le même scénario en ce moment. Il n'y a que récemment que la Tunisie, je crois, a admis qu'il y avait peut-être un racisme anti-noir. Et encore. Je rappelle qu'il y a un cimetière réservé aux, aux anciens esclaves de la Tunisie, où les Noirs ont le droit d'être enterrés. Ouais. Et du coup, tout ça nous ramène en fait à... En fait, ça arrive, ça allait jusqu'à un paroxysme, en fait, de meurtre, d'assassinat, pour qu'en fait, on puisse en parler aujourd'hui.
Et on puisse en parler, pas vraiment, enfin... On devrait en parler, en effet, au sein de la communauté afro, mais dans les médias français, enfin dans les, c'est pas vraiment un sujet qui est porté, parce que aussi il y a la défense de ces pays-là, de ces communautés-là, qui disent mais non, nous sommes très accueillants, on comprend pas, vous dites n'importe quoi, nous sommes pas racistes, mais voilà, donc il y a
les faits parlent d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on va écouter justement Abdel, qui est issu de la communauté maghrébine, qui en parle. Du coup, parce que des fois, quand c'est nous-mêmes qui en parlons, nous, directement, on est taxés de parano. Nous sommes paranoïaques, nous voyons le mal partout. Alors qu'il y a des chiffres qui nous montrent, hein, ce n'est pas moi qui parle. Par exemple, la négrophobie, ce n'est pas que dans le Maghreb, hein, c'est partout. C'est vraiment, c'est partout parce que c'est une histoire qui date de plus de 700 ans, en sachant que la plus grosse... industrie, le plus gros commerce, le plus gros génocide a duré vraiment 400 ans, fait par les Occidentaux. Mais au Maghreb, l'esclavage, ça continue. Ça s'est jamais vraiment arrêté. Donc, ce n'est plus comme c'était avant où les Noirs mouraient par milliers, mais encore aujourd'hui, de toute façon, les Noirs meurent en Méditerranée. Encore, il y a quelques jours, un bateau a fait naufrage au... c'était jeudi. Jeudi, un bateau a fait naufrage au large de la Libye. Et 110 personnes sont mortes. Du coup, la Méditerranée est devenue un cimetière de Noirs. En fait, le truc, c'est que là, ça va vraiment, 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 vraiment trop loin, en fait. Et il faut vraiment des mesures. Parce que en Éthiopie, les Éthiopiens manifestent contre Israël et le racisme. En Chine, les Chinois font la misère. Même les Chinois qui sont en Afrique font la misère. En Afrique, c'est quand même hallucinant. je sais pas, je sais même pas quoi dire, tellement c'est aberrant. Évidemment, l'esclavage en Libye... Les gens disent qu'il y a l'esclavage en Libye, mais personne ne fait rien pour arrêter l'esclavage en Libye. Alors qu'il y a des femmes qui meurent, qui se font violer. Et encore récemment, il y a, même plus près, en Italie, il y avait, par la mafia, la vente d'organes de personnes noires.
Il y a ce... Enfin, pour moi, il y a aussi ce déni de... La relation de la France avec l'Afrique, en tout cas, est très compliquée. Et déjà, la reconnaissance de l'esclavage, la réparation pour ça, bon, on en parle un petit peu. Enfin, il y a quelques tentatives de rendre, par exemple, rendre quelques œuvres d'art, mais bon, voilà, c'est timide, quoi. Par rapport aux dommages qu'ils ont fait à ces communautés-là, il n'y a pas de reconnaissance vraiment. Et maintenant, les relations qu'ils ont avec ces pays-là sont très ambiguës. Et voilà, et du coup, reconnaître qu'il y a un problème, qu'eux-mêmes aient fauté, que la situation qui se passe est en grande partie de leur faute, en fait, découle de leurs actions, du fait qu'ils ont mis des gens en esclavage et que ça a créé tout ce système-là. Enfin, voilà, la France n'est pas, pas encore prête à l'accepter, et le monde aussi, parce qu'en effet, des milliers de personnes meurent dans la mer Méditerranée, mais qu'est-ce que c'est, en fait, le coût d'une vie d'une personne noire, en fait ? C'est quoi ? C'est, au final, le monde s'en fout, quoi.
C'est ça qui est triste. Et justement, que ce soit, par exemple, au Maghreb, ou même en Inde, partout où nous sommes, on est victime de négrophobie, on est victime d'un racisme spécifique. À cause d'une histoire, on parle de la France, mais il y a l'Angleterre, il y a les États-Unis. En fait, c'est vraiment généralisé. Et ça vient vraiment de cette exploitation qui a été un commerce, qui a été une déshumanisation totale. Ils faisaient quand même des tests sur nous pour dire qu'on était...
C'est du bétail, quoi. C'est des rats de laboratoire, enfin des souris de laboratoire. Ouais. Et c'est vrai que il faudrait en effet qu'il y ait un mouvement pour dire stop et juste rééquilibrer les choses et en effet réclamer réparation en fait et, oui. Et jouer carte sur table. Mais pour l'instant, on est dominé parce que enfin dominé économiquement, on est pieds et mains liés à ces pays qui nous exploitent, enfin qui exploitent les ressources africaines. Donc enfin oui. Le système continue, mais il faudrait en effet que
et tout le monde y participe. Et il faut vraiment que nous soyons conscients de ça, de tous les pays que j'ai cités, le Maghreb qui n'est pas un pays mais qui est une partie de l'Afrique du coup qui est plutôt située au nord, en Inde, en Chine, en Israël, tout le monde y participe parce que tout le monde a intérêt à ce qu'on reste opprimé pour pouvoir nous piller, pour pouvoir nous tuer, pour pouvoir nous violer. Moi, il y a un film que j'ai vu et à chaque fois je le répète. Quand j'ai vu 12 ans d'esclavage, je me suis dit, il ne suffit qu'il y ait une seule déstabilisation, je ne sais pas, un changement climatique ou une effondration, que l'économie s'effondre, ou je ne sais pas quoi, pour qu'on redevienne encore de façon systémique des esclaves. Aujourd'hui, dans certains pays, ça existe encore, mais il ne faut pas que ça recommence. Et il faut qu'on se batte encore et encore pour abolir tout ça. Et qu'on se batte pour s'aimer.
Pour réclamer, pour s'aimer et pour se montrer et du coup se sentir validé et être digne en fait, de réclamer la dignité, de savoir la valeur de sa vie. Quoi. Genre, on est les personnes racisées sont des êtres humains comme les autres et ont besoin de respect et de dignité comme la plupart des êtres humains. Et, voilà. Et arriver à être fier de ça, de notre héritage, de notre culture, d'être fier de nos peaux foncées pour se tenir droit et fier et dire je vais vous faire foutre. Et, oui. Ouais. Et on mérite le respect et nos vies comptent autant que les vôtres. Quoi.
Oui. Et le but n'est pas de convaincre des personnes que la négrophobie existe, que le racisme anti-noir existe. Je pense qu'il y a des milliers d'études, il y a toute une histoire qui le montre. Le but aujourd'hui, selon moi, c'est qu'on ait conscience dans quel environnement on est, à quelle place on occupe. Et vis-à-vis de cette place-là, et qu'on sache que si l'un d'entre nous est touché, que ça ne peut plus rester comme ça, que si l'un d'entre nous est touché, on doit tous répondre. Et on doit tous répondre comme une seule personne. Et il n'y a que pour moi l'amour de nous-mêmes qui peut nous sauver. Parce que ne perdons pas notre temps à convaincre les gens qui n'ont aucun intérêt à ce qu'on soit au même niveau, à ce qu'en fait on puisse vivre comme on mérite de vivre comme des êtres humains. Donc ne perdons pas notre temps, sachons où nous sommes, et comment arriver à juste nous aimer. Aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que quand j'aurai un enfant, cet enfant aura des chances d'être traumatisé par le racisme.
Ouais, ce sera pas un cadeau que tu... Enfin, faut être conscient de ça, ouais.
Ouais, d'être traumatisé par le racisme, d'avoir une douleur psychologique à cause de ça, parce que ça a des coûts, non pas que genre physique, mais psychologique, ça a des coûts. Et on en souffre vraiment.
Ouais, tout à fait.
On n'a pas tous cette résilience, en fait. S'il n'est pas tué par la police, s'il n'est pas tué par comme ils disent, par un fou, ou juste par un raciste, ou par un négrophobe, bah, peut-être qu'il va souffrir psychologiquement d'une situation où tout le monde le considérera comme inférieur, en bas de la hiérarchie. Non, on est tous égaux. Et aujourd'hui, puisque tout... Il faut que ça cesse. Et du coup, pour vous montrer en image le Maghreb, comment se passe le racisme anti-noir au Maghreb, on va diffuser une vidéo de Abel, de AJ plus français.
C'est parti.
Yes.
Ah, le Maghreb, ses macroutes, ses plages, ses mariages blancs, et aussi l'un de ses plus grands tabous, le racisme anti-noir. « commencer, histoire de se mettre d'accord, le Maghreb, c'est pas en Bretagne, c'est un peu plus bas, c'est en Afrique. Donc même si tu ne veux pas, les Maghrébins sont africains. Et là-bas, tu peux entendre Karloch, Azé, Khal, Abd. Non, ce ne sont pas des noms de Pokémon, mais des mots horribles qu'utilisent certains pour définir les Noirs.
Karloch, je vais commencer. Je vais te dire mes remarques. Est-ce que tu vas accepter?
Comme tu veux, madame.
Je vais vérifier un truc. Ouais, on est bien en 2019. Mais avant de continuer, est-ce que tu t'es abonné à la chaîne YouTube et à toutes les plateformes? Je ne t'entends pas, hein. C'est une vidéo, c'est le principe. Allez, abonne-toi. Clic, clic, clic. Moi, quand j'entends qu'il y a du racisme contre les subsahariens au Maghreb, alors que c'est l'une des régions les plus accueillantes du monde, mon cerveau, il bug. Ce racisme est souvent banalisé à cause de l'héritage de l'esclavage fait par les Arabes pendant des siècles et des siècles. Et encore aujourd'hui, malheureusement, plus on monte dans l'échelle sociale, moins les Noirs sont visibles. Regarde, regarde, la nouvelle Miss Algérie. Quand certains l'ont vue, alors qu'elle a la peau juste un peu plus foncée, ça a révélé un niveau de racisme incroyable. Les gens, ils étaient là en mode « Attends, mais t'es sûr que c'est Canal Algérie, ça ?» Et à cause de ça, quand tu tapes sur Google Miss Algérie, le premier truc que tu vois, c'est « Miss Algérie, trop noire ?» Il y a certains Algériens qui oublient que les Algériens qui vivent au sud du pays ressemblent plus à Samuel Eto'o qu'à Cheb Khaled. Hein. Et ces dernières années, avec l'arrivée des exilés subsahariens qui veulent rejoindre l'Europe, ça n'a pas arrangé les choses. Alors que c'est juste des mecs bloqués dans ces pays. Avec, je le rappelle, la complicité financière de l'Union Européenne. Donc prendre les ressources, ça oui, les gens n'en veulent pas, c'est ça, hein? Malgré l'élan de solidarité de beaucoup d'Algériennes et d'Algériens, le gouvernement continue de les reconduire à la frontière avec le Niger. Mais le problème, hein, c'est que cette frontière, elle est en plein milieu du désert et ils doivent marcher des dizaines de kilomètres sans eau ni nourriture. Bref, c'est le Paris-Dakar, mais à pied. Autre exemple, au Maroc, il y a des exilés subsahariens qui vivent dans des camps. Et ben là, t'as des policiers, tu sais, en grosses moustaches qui les expulsent. Et t'as aussi des mecs qui vont jusqu'à brûler leur camp. Ça me rappelle vaguement une ville en France. Avec tout ça, à un moment, le roi du Maroc a décidé de régulariser 50 000 sans-papiers. Et malgré ça, ceux qui sont régularisés, ils ont du mal à trouver un logement. À Casablanca, t'as des propriétaires qui ont affiché « Interdit de louer des appartements aux Africains ». Ah, c'est fou pour l'appartement! C'était ça l'accent! Mais je suis désolé, hein, tout est loué. Ensuite, en Tunisie, ouais, je fais tout le Maghreb. À Djerba, les descendants d'esclaves ont encore aujourd'hui marqué sur leur acte de naissance « Affranchi par ». Et ils ont aussi un cimetière où on enterre que les Tunisiens noirs qui s'appelle le cimetière des esclaves. C'est la discrimination, mais jusqu'à la mort, quoi. « Faqaboulu l'ikhtilafi indana laysa illa ghilaf. » Mais après l'agression en 2016 de 3 Congolais, la Tunisie a fini par dire « Voilà, barja souffrance !» Et ils ont fini par voter une loi contre le racisme. Et ce que vous ne savez pas, hein, c'est que c'est la première loi de ce genre dans tout le monde arabe. Je sais pas si je dois pleurer ou applaudir. Bon, maintenant, on attend le Maroc et l'Algérie, hein. Il y a bien eu la campagne ni Oussif, ni Azi, Baraka et Yezi qui a réuni tout le Maghreb. Mais je suis désolé, c'est pas assez. C'est pas avec 4 tweets et 2 affiches qu'on va changer les choses. Il faut changer les mentalités. Et ça passe par l'éducation et surtout par une vraie volonté politique. Et franchement, entre vous et moi, est-ce qu'il faut à chaque fois attendre la CAN pour qu'on se dise qu'on est tous africains? Moi, je vous invite à partager cette vidéo et mettez en commentaire un maximum d'amour en écrivant Afrique United. Bah, l'accent y est pas, mais t'as compris. Et vivement un pays africain champion du monde de foot. Ah non, c'est bon, j'avais oublié. La France l'a déjà fait. Ciao! Hello, c'est pas fini.
Donc, c'était Abel.
Abdel.
Pardon, Abdel. Ouais. Qui parlait justement du racisme au Maghreb. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Hein. C'est assez édifiant.
On peut juste dire que donc, par rapport à l'affaire de Mamoudou Barry, il y a eu plusieurs marches qui vont être organisées dans beaucoup de villes. À Paris, à Lyon, à Dijon, à Rouen, là où ça s'est passé. Et aussi à Marseille, du coup, tout à l'heure.
Oui, tout à l'heure, sous l'ombrière du Vieux-Port. À 18h, il y a une marche qui est organisée en souvenir de Mamoudou. Et c'est une marche qui est organisée pour dire plus jamais ça. Plus jamais ça. On ne peut pas vivre comme ça. Que ce soit en France, que ce soit dans tous les autres pays, ce n'est pas possible.
On ne peut pas accepter ça.
C'est plus possible d'accepter ça. Et non, non, c'est plus possible. Et du coup, peut-être avant de partir, on va faire une petite pause musicale.
Ouais.
Avant de clôturer.
Si tu veux présenter le titre, du coup.
Oui. Doku Oxymore. Doku est un artiste afro. Et cette chanson s'appelle Oxymore.
Okay, c'est parti.
Je ne veux pas dire plus que ça. Elle est parlante.
On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'écoute pas. On ne se comprend pas. On ne se suit pas, on se connaît pas. M'entends-tu quand je te parle? Me suis-tu quand je pars? Me ressens-tu quand je te palpe? Me vois-tu malgré l'écart? Y'a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Difficile de mentir à son miroir, parce que le cœur est la meilleure des mémoires. Je cache mes sentiments pour que tu ne puisses les voir. On se dit je t'aime sans le ressentir. On se dit la vérité pour mieux se mentir. On a peur de demain mais on espère l'avenir. On veut vivre longtemps mais on ne veut pas vieillir. Donc m'entends-tu quand je te parle? Me suis-tu quand je pars? Me ressens-tu quand je te palpe? Me vois-tu malgré l'écart? On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'écoute pas. On ne se comprend pas. On ne se suit pas. On se connaît pas. Te souviens-tu quand je me rappelle? Vis-tu quand c'est marche ou crève? M'entends-tu quand je crie à l'aide? Manifestes-tu quand ma vie fait la grève? On touche les mêmes choses mais on les ressent pas pareil. On prend la même route mais l'arrivée n'est pas la même. On réfléchit mais on ne partage pas la même gamberge. On regarde mais on ne voit pas de la même manière. On s'explique sans s'écouter. On parle la même langue comme des sourds muets. On veut apprendre à courir avant de savoir marcher. On veut ressentir sans avoir besoin de toucher. Te souviens-tu quand je me rappelle? Vis-tu quand c'est marche ou crève? M'entends-tu quand je crie à l'aide? Manifestes-tu quand ma vie fait la grève? On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas.
Retour en direct sur 88.4. On va terminer l'émission Les Nouvelles de Mars. Et merci à toi, Sandra.
Bah merci Erika, de m'avoir invité encore une fois. Ça me fait super plaisir de parler d'Afropunk et d'initiatives pour les Afro-descendants. Il faut continuer, il faut en faire plein.
Il faut en faire plein, on a besoin, vu l'état du monde. Pour finir, je vais vous lire un message, un texte très court que j'ai écrit justement par rapport à la. À ce qui va se passer ce soir pour l'hommage, le souvenir pour Mamoudou Barry et pour toutes les personnes noires qui meurent au fond de la Méditerranée, qui meurent un peu partout, qui se font violer chaque jour Voilà. Pour notre histoire, pour nos vies. Voilà le texte. Qui s'appelle l'amour. On croit que le contraire de la guerre, c'est la paix. Moi, je crois que c'est l'amour. Et mon seul souhait, c'est qu'arrive ce jour, quand mourra l'un de nous, on sentira simultanément leurs doigts sur notre cou. Et qu'on s'aime tellement qu'on soit prêt à tout pour continuer de nous aimer. Amour. Rendez-vous ce soir à 18h sous l'ombrière du Vieux-Port, en souvenir à Mamoudou Barry. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Et
rendez-vous pour la prochaine.
Yes. Merci beaucoup. On va clôturer. Au revoir.
Au revoir.
Pour autant, au risque de me déplaire, je passe les choses au coin de ma rue.